23e aventure. Comment Isengrin voulut se venger de Renard et comme il en eut regret. C'était là bien commencé la journée. Renard fait ensuite le tour de la montée, puis descend vers le marais qui d'un côté l'a terminé. Il s'y baigne et donne à ses membres une nouvelle agilité. Comme il revenait à terre, il voit arriver sur lui le seigneur Isengrin, qui, depuis l'aventure racontée par ses louveteaux, n'avait pas une amitié fort tendre pour lui. « Ah, te voilà donc enfin !» dit Isengrin en lui jetant un regard furieux. « Tu vas, j'espère, payer tout ce qui m'est dû. Je sais comment tu as violé le seuil de ma maison, comment tu as déshonoré ma famille, outragé, sali, battu mes enfants. Écoute ce que j'entends faire. Tu te disais mon neveu, tu faisais semblant de m'aimer comme j'avais moi-même la sottise de t'aimer. Eh bien, je vais te loger dans une prison qui t'empêchera de tromper à l'avenir qui que ce soit au monde. Tu seras tranquille de ton côté sans avoir besoin de dresser pièges, embuscades ou guet-apens, de sonner le beffroi, de jeter pierres ou faire jouer Mangono. Tu ne craindras plus la vengeance de roi, prince ou seigneur plus puissant que toi. Et cette prison, tu la connais, je suppose. » Renard, auquel tout moyen de fuite était interdit, sent qu'il ne peut éviter le sort dont on le menace qu'en s'humiliant devant son redoutable ennemi. Il tombe à genoux, la queue entre les jambes, et d'un ton contrit et suppliant, « Oncle, dit-il, il est d'usage en cour de baron d'offrir et prendre l'amende de ceux qu'on a méfaits. Vous pensez que j'ai méfaits ? Dites donc quelle amende vous exigez de moi, et Dieu aidant, je vous satisferai. » « Par Dieu le Père, répond Isengrin, l'amende que je demande, c'est la place que je te ménage dans mon ventre. Il me prend envie d'ajouter ta chair à la mienne, de mêler mon sang avec le tien, de réunir par ce moyen les ruses de ton esprit à la générosité de mon courage. Allons, ne vous faites pas prier, mon beau neveu. Cette belle rangée de dents est prête, comme vous voyez, à vous recevoir. Vous y mettez vraiment trop de cérémonie. » Disant cela, Isengrin s'était jeté sur Renard, l'avait retenu sous ses pieds sans mouvement, l'avait battu, mordu, houspillé, comme jamais ne le fut prisonnier en terre sarrasine. Il a beau crier merci, invoquer la pitié de son bon oncle, Isengrin le prend par la nuque, lui déchire la peau et le réduit enfin à ne plus exhaler que des gémissements étouffés. Une chose préserva Dame Renard. Sa chair était loin d'être, même pour Isengrin, un friand morceau. Après l'avoir longtemps martyrisé, « J'hésite, dit-il, sur le genre de mort que je te donnerai, si j'allumais un feu ardent pour te griller. Ensuite, je te mangerai. Non, tu serais mort trop vite. » Et cependant, voyant Renard attendre, gueule béante, le moment de rendre le dernier soupir, Isengrin lui ferme la gorge de son pied et peu s'en faut qu'il ne l'étrangle. Mais au moment même, il en était grand temps, voilà que la pitié trouve place dans le cœur d'Isengrin. Il remembre les anciens liens d'amitié, les bons tours qu'ils ont faits souvent ensemble, les jeux, les plaisirs, les agréments de leur première jeunesse. Peu à peu, ses yeux se troublent et viennent à se remplir de larmes. « Oh mon Dieu, le voilà mort ! Et qu'ai-je fait ? J'ai pu frapper mon ancien ami, mon meilleur conseiller ? Maudite colère !» Ces paroles arrivent aux mourantes oreilles de Renard. Il fait un léger mouvement. « Qu'est-ce ? Dit Isengrin. Je crois qu'il a remué. Oui, ses veines battent encore, bien qu'on sente à peine sa respiration. « Oui, je vis, dit Renard, mais vous avez commis un grand crime en traitant comme votre plus grand ennemi le pauvre neveu qui vous aimait tant. Vous êtes fort et vous avez écrasé le faible, l'innocent, privé de défense. » Isengrin fut longtemps sans répondre et comme en proie à de véritables remords, pendant que son neveu reprenait des forces et du courage. « Tenez, dit le premier Renard, au lieu de me maltraiter sans raison, regardez et profitez de l'aventure qui vient s'offrir à nous. »